Le grand débat de l'Anacofi, jeudi 14 décembre 2023 au Cercle de l'Union Interalliée sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonsoir à tous, bienvenue sur nos antennes. On est ravis de vous retrouver en direct du Cercle de l'Union Interalliée pour le grand débat de l'Anacofi. Et j'ai l'honneur d'être avec Sylvain Lévy-Valency. Bonsoir Sylvain, comment allez-vous ?
Je suis venu uniquement pour vous.
Oh, mais qu'est-ce que voilà. Ça me fait plaisir quand vous me parlez comme ça.
En tout cas, on est dans un lieu magique et magnifique.
Oui, c'est vrai. Et alors, on a deux invités pour ce plateau. Henri Buzicazo, président fondateur de l'IMSI. Bonsoir.
Bonsoir, Bérénice. Je dis volontiers qu'on est très bien dans ce cercle. C'est un immeuble magnifique. On parle d'immobilier hein, ce soir.
Oui.
Ben voilà, il faut apprécier la beauté du lieu. Je ne suis pas membre de ce cercle, mais d'un cercle qui est juste à côté.
Et donc,
l'Automobile Club de France, ouais. Qui a aussi un très bel immeuble.
Ouais,
très bel immeuble. On parle aussi d'actifs immobiliers extraordinaires. Et une fois par an, ces deux clubs qui sont très très proches, au terme d'un accord de réciprocité, accueillent les membres de l'autre.
Quand l'un est fermé.
Voilà, pendant un mois. Donc un mois par an, au mois de juillet, je suis membre du Cercle Interallié. Mais surtout, j'y viens avec beaucoup de plaisir pour faire des beaux débats avec
avec Lionel Causse, par exemple. Bonsoir, député des Landes et président du Conseil National de l'Habitat.
Bonsoir, merci pour votre invitation. Moi, je suis membre d'aucun cercle, mais très heureux d'être là ce soir avec vous et très heureux de découvrir ce magnifique site. De vrai, en termes d'accord avec Henri, ça fait plaisir de voir que nous avons des bâtiments de telle sorte et aussi bien entretenus dans notre capitale.
Magnifique. Avec une histoire
extraordinaire. Avec la cheminée qui est derrière nous.
C'est ici que les alliés se sont retrouvés et ont créé la base de ce qui deviendra l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est pour ça qu'on l'appelle le Cercle de l'Union Interalliée, notamment l'Alliance Atlantique, qui s'est réunie ici, la première réunion de l'Alliance Atlantique s'est réunie ici.
Alors nous allons parler du crédit, hein, puisque vous êtes intervenus, messieurs, lors d'une table ronde, justement, sur ce marché, ainsi que sur le travail des intermédiaires en opération de banque et en service de paiement, qui est compliqué, sur le marché de l'immobilier de la pierre papier, qui est perturbé. Alors est-ce qu'on peut faire un petit point déjà sur la conjoncture, pour rappeler à nos auditeurs dans quel contexte nous sommes ?
Écoutez, la conjoncture aujourd'hui, elle est, je dirais, un céphalogramme plat, puisque nous avons au niveau des prêts une division par deux. Nous avons au niveau des transactions, on était passé en 2022, je crois 1 200 000 transactions, on va atterrir peut-être à 900 000, peut-être un petit peu en dessous selon les prévisions. Donc à suivre, nous avons un marché de la construction qui ne se porte pas bien non plus, nous allons avoir une baisse effectivement de la construction, nous allons voir que ce soit sur le logement social ou le logement, on va dire, libre. Aujourd'hui, il y a une baisse totale et ceci va nous amener probablement une année 2024 et 2025 dans la foulée, qui risquent d'être des mauvaises années pour le logement, puisque ce sont des années sur lesquelles il va falloir qu'on redonne du sens et qu'on redonne un petit peu confiance à tous les acteurs et qu'il nous faudra bien entendu quelques années pour relancer la machine.
Le logement et la construction, et vous l'avez lu comme moi, le président de la Fédération française du bâtiment a publié ses chiffres, c'est officiel, la construction est entrée en récession.
Récession, et ça va avoir un impact bien sûr sur toute l'économie française.
Et alors,
on l'avait annoncé.
Vous avez évoqué donc les transactions en baisse, les taux qui remontent et les prix alors. C'est vrai qu'on attend une baisse des prix, c'est pas le cas ?
Les prix, il y a une baisse globale
minime
de 1-2% au niveau national. Alors il y a des disparités territoriales, ce qui est tout à fait normal. Moi je viens d'un territoire, si je regarde sur mon territoire du sud-ouest des Landes, aujourd'hui je ne peux pas parler de baisse.
Ça, c'est cool.
Éventuellement d'atterrissage, mais la baisse non. Alors ensuite, là où je vais être prudent dans mon analyse, et je pense qu'il faut qu'on le soit, c'est que quelque part, quand on compare des prix pour 1 200 000 transactions et de l'autre pour 800 ou 900 000, la comparaison n'est pas forcément déjà sur la même quantité de biens. Et on pourrait aussi imaginer que sur les biens qui sont à la vente, ce sont des biens qui ont besoin d'être vendus. Parce que les propriétaires doivent s'en débarrasser et donc forcément des biens sur lesquels il est peut-être plus facile de discuter et de négocier le prix. Moi, je vois les maisons ou les appartements sur le littoral landais en particulier aujourd'hui, si les gens n'ont pas besoin de vendre, ils ne vendent pas. Donc il n'y a plus rien. Les agences me disent que tous les biens sont retirés de la vente.
Pour abonder justement et étayer le débat, avant de réagir Henri, je vous donne quelques chiffres. Deux rapports ont été publiés en début d'année avec le rapport de la Fondation Abbé Pierre et le rapport d'Oxfam il y a 8 jours. Qui a pointé des chiffres, parce que bien sûr on peut critiquer.
Dirigé par Cécile Duflot,
ancienne ministre du logement. Moi j'ai quelques réserves sur certains chiffres.
On peut critiquer certains points du rapport, Mais le fait est que certains chiffres, notamment sur l'explosion des prix, oui, sur la concentration de la propriété immobilière, il faut savoir que 44% de la propriété immobilière est entre les mains de 10% des personnes, quand même un chiffre conséquent, l'explosion des prix, l'explosion des loyers et des revenus qui n'ont pas suivi, ainsi que de plus en plus une durée qui s'allonge pour l'accès à la propriété. Deux chiffres. Le chiffre des SDF, des personnes sans domicile fixe, en janvier 2023 a explosé, il a quasiment doublé. Christophe Robert, d'ailleurs tu y étais, a alarmé et alerté, et n'a cessé d'alerter, et pour une première d'ailleurs, toutes les médias en avaient parlé pendant une semaine. Et enfin, on a deux autres chiffres qui corroborent, qui disent que finalement, ce n'est pas un problème perturbé, c'est carrément une catastrophe nationale. 12% des étudiants à la rentrée de septembre 2023 n'ont pas trouvé de logement, donc ont abandonné leurs études. Et 17% des personnes qui auraient signé un contrat à durée indéterminée dans les grandes métropoles, absolument, n'ont pas pu prendre l'emploi. Il s'agit de plusieurs centaines de milliers de personnes, sans compter qu'aujourd'hui, on a 2,5 millions de foyers qui sont en état de précarité, de grande précarité du logement. Ils ne sont pas à la rue, ouais, mais ils sont toujours hébergés par le compte de tiers. Et enfin, le troisième point, c'est le rapport sur l'hébergement d'urgence du député Jolivet que vous avez vu. Henri, quand on voit tous ces chiffres, on se dit, si on voulait une crise, on ne s'y serait pas pris autrement. Quel est le coupable ?
Alors, ça n'est pas l'inflation. Je veux dire que l'inflation, les dérèglements économiques qu'on vit depuis 18 mois, pour moi, sont venus poser une loupe sur des dysfonctionnements qui étaient beaucoup plus anciens. Et on n'a pas traité, depuis une bonne génération, plus de 20 ans, la question de la cherté du logement, sa déconnexion avec les revenus des ménages. Alors, quand il y avait des taux bas, des crédits auxquels on accédait facilement, la misère était cachée, si je puis dire. Et globalement, tout le monde arrivait à acheter son logement. Il y avait déjà des mal logés, des sans-abri.
Donc c'est un problème structurel.
Mais c'est un problème structurel. Il faut qu'on apprenne à construire moins cher. C'est la question du coût du foncier, essentiellement. Mais sans doute aussi la question des normes, mais vraiment la question du prix du foncier. Il faut que les logements à la revente soit moins cher. Alors la baisse, pour moi, elle est amorcée. Il faut se méfier des statistiques. Quand le député dit à juste titre, on est en statistique nationale à moins 1, moins 2, moins 3.
C'est juste.
Moi, je veux dire.
C'est les chiffres des notaires.
Oui, bien sûr, les chiffres des notaires. Ils ont été évoqués tout à fait tout à l'heure par Xavier Lièvre. Mais dans les faits, aujourd'hui, ça veut dire que, je vais parler comme un agent immobilier parlerait, il a reçu un mandat, il a le bien depuis 8 mois ou 10 mois, et rien ne se passe. On a pris le mandat à 100, valeur 100. En réalité, pour que ça parte, j'ai des exemples dans toute la France, il faut se mettre à 90, peut-être même à 85. Bon, la vérité, c'est ça. Par rapport à des prix qui, pour certains, étaient en anticipation de hausse, oui, on a déjà des corrections de 10, 12, parfois 15%.
Dans certaines villes, hein, c'est vrai.
Selon les villes, selon les marchés,
après,
bien sûr. Et notamment, les villes qui avaient augmenté
Bordeaux,
très vite
Lyon,
et très haut.
Pourquoi
Paris se retrouve tel en dessous aujourd'hui de 10 000 euros du mètre carré, hein. Globalement, il y a eu une baisse très forte après des années d'augmentation à
malgré
deux chiffres.
Malgré les investisseurs étrangers. Hein.
Malgré les investisseurs étrangers, malgré l'attractivité de Paris, on dit ce qu'on veut, c'est une capitale très attractive. Eh bien, parce que, effectivement, la solvabilité ne suit plus. Alors, le problème aujourd'hui, il est de ce décalage. Il faut que structurellement, on corrige ça. Je voudrais saluer les travaux du CNH. Alors, j'ai la chance de pouvoir y prendre part, mais Lionel Cos a vraiment fait de ce lieu-là un lieu où on se pose les vraies questions collectivement et on essaie de trouver des réponses, des sujets structurels. Et puis conjoncturellement, il y a des choses qu'il faut faire. Il faut que l'accès au crédit ne soit pas bloqué par des critères du Haut Conseil de stabilité qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui, qui bloquent tout.
Lesquels ?
Très clairement,
L'endettement.
C'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance aux banques. Ces critères, ils veulent dire on met les banques sous tutelle ou sous curatelle parce qu'elles ne savent pas faire leur métier. C'est pas vrai. Bon, donc il faut relâcher. Le ministre du logement lui-même en est partisan. Bon, alors on ne va pas revenir sur les marges de liberté qu'elles ont, mais c'est mal fait. C'est mal fait. Bon, il faut.
Alors la Banque de France n'est pas de cet avis. Hein.
Ah, ça c'est clair. Mais la Banque de France n'est pas de cet avis.
Sur le taux d'usure, ils disaient la même chose et finalement.
Et finalement,
ils y sont venus.
Ils y sont venus.
Donc, Buzicazo, elle l'avait dit 6 mois avant. Messieurs, vous y viendrez.
Je pense qu'il fallait. Et donc, j'ai foi que ces critères, on va les relâcher. Resolvabiliser par le prêt à taux zéro, notamment les primo-accédants dans le neuf ou dans l'ancien rénové.
Il a été drastiquement modifié, je rappelle à nos auditeurs.
On lui a enlevé la moitié de son souffle, on lui a coupé les ailes. Bon, voilà. Donc, redonner du souffle. Et puis, bien sûr, pour partie, le marché va faire son office avec des baisses de prix, y compris des baisses de prix du foncier. Moi, je sais que les promoteurs attendent de pouvoir acheter des terrains pour relancer la machine pendant 4 ou 5 ans moins cher.
Alors, il y a une question. Alors, je profite, pardonnez-moi, je vais faire un peu mon journaliste, mais je profite que vous soyez un député de la majorité pour vous poser des questions. Tout est politique dans le logement.
Il faut de la politique dans le logement.
Est-ce que tout est politique ?
Non.
Si le gouvernement actuel, l'exécutif, avait décidé de ne pas toucher au PTZ, au contraire de l'élargir, est-ce que cela irait mieux ?
Je pense...
Au lieu de compliquer un PTZ qui n'était déjà pas simple.
Je pense que le PTZ, il faut le retravailler. Tel qu'il sort aujourd'hui du PLF 2024, il n'est pas satisfaisant. Pour le dire, puisque je l'ai dit à la Première Ministre, je lui ai dit que je connaissais le résultat du PTZ à ma circonscription, ça serait zéro. Parce que le PTZ, on me le met sur des communes où le prix du mètre carré est à plus de 10 000 euros sur le littoral. Je ne connais pas beaucoup de primo-accédants qui vont pouvoir y accéder.
Merci de le dire.
En concertation, en échange, bien sûr, avec les travaux du CNH et professionnels, c'est pour ça que j'ai déposé un amendement dans le cadre du projet de loi de finances qui a été voté d'ailleurs en commission, mais pas repris dans le 49.3, qui permettait d'élargir le PTZ. Parce que j'en ai un petit peu marre qu'on parle de zones tendues, zones détendues. Okay.
Donc
je crois que maintenant,
on a
des zones. Des zones très 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 tendues, des zones très tendues, des zones tendues. Mmh. Voilà, donc ça s'est généralisé sur l'ensemble du territoire. Donc il va falloir, en termes d'aménagement du territoire, arrêter un petit peu ces critères de zonage. Ça fait partie aussi des travaux qu'on a menés au sein du Conseil national de l'habitat. Il faut qu'on sorte de ce schéma-là. Il n'y a aucune raison aujourd'hui...
Suppression du zonage.
...que moi... Mais écoutez, si je prends deux ou trois communes, par exemple, je vais prendre Osgore-Seignos. Mmh. On peut bénéficier au maximum du PTZ. Mais on peut pas, il n'y a pas de bien... Quasiment que des maisons, plus de 10 000 euros du mètre carré, c'est pas quelqu'un primo-accédant qui travaille dans le coin, qui va pas accéder. On lui dit d'aller à la commune voisine, juste à côté, où on est à 5-6 000 euros du mètre carré. Il a besoin du PTZ. 5-6 000 euros du mètre carré, un primo-accédant sans PTZ, il ne peut pas passer non plus. Donc on l'envoie où ? À 50-60 km, où on va retrouver des prix à 2 000-3 000 euros du mètre carré.
Voilà.
Et résultat, il va se retrouver, à cause de ces choix-là, on a effectivement tous, on le dit, le gouvernement le dit, il faut arrêter d'envoyer les Français à 40-50 km de leur lieu de travail.
Ah, c'est
mais
le
avec
c'est
ces zonages-là, mais on le dit tous depuis la crise des Gilets jaunes.
Ah ouais.
Depuis la crise des Gilets jaunes, on dit qu'il faut rapprocher les gens effectivement de leur lieu de travail. Je veux dire,
c'est
quelque chose. Voilà, c'est un constat qu'on a fait. Et en refaisant ce genre de zonage et en reprenant ce genre de mesures, on réaccentue, on revient en arrière.
Pardonnez-moi,
Lionel Cos, les chefs d'entreprise commencent à le dire également parce que le marché de l'emploi est impacté à cause de cette crise du logement. Et les chefs d'entreprise se mobilisent et le disent aussi.
Bien sûr. Lionel Cos, pardonnez-moi. Vous dites que c'est le gouvernement qui dit que c'est pas bien, effectivement, qu'il faudrait rapprocher l'emploi et le logement. Et c'est ce même gouvernement aujourd'hui qui a cassé les reins de la construction. Il n'était pas obligé de mettre un terme aussi unilatéral au dispositif Pinel, n'en déplaise à certains qui pensent qu'effectivement c'était une perclusion fiscale. Patrice Vergré, dans une tribune récemment, l'a dit, a parlé carrément de drogue fiscale. Ok, on peut en discuter, mais c'était pas une obligation réelle d'y mettre un terme. Mais je parle pas que de ça, je parle du soutien au logement étudiant. Avec l'APL. Je reprends aussi les travaux inachevés sur la fiscalité du foncier. Alors que les professionnels l'ont dit, il suffirait d'inverser la fiscalité du foncier, c'est-à-dire plus on le détient et plus on le taxe. Et puis si jamais vous le vendez à de bonnes conditions, vous avez un avantage fiscal pour justement faire ce que dit Henri Buzicazo, baisser le prix du foncier. Autre chose, dans cette crise, on a aujourd'hui des collectivités locales qui avaient quelques relais de financement, pauvres élus locaux, avec la taxe d'habitation qu'on leur a enlevée. Et la compensation a bien fonctionné la première année. Ensuite, ça a été une catastrophe. Et la deuxième chose, c'est que cette crise immobilière entraîne une chute vertigineuse des DMTO, les droits de mutation à titre onéreux, qui était un peu la ressource ultime des élus locaux, qui se trouvent là complètement à l'os. Alors, je vous ai déjà posé la question, et vous savez que je vous apprécie, Lionel Cos, mais... Vous faites quand même partie de cette majorité. Est-ce qu'un jour, vous allez vous désolidariser parce qu'à un moment donné, vos arbitrages ne seront pas entendus ?
et moi je porte des valeurs et des principes.
Alors on n'a pas entendu le début de votre...
Je suis très libre en politique, j'ai toujours aidé, je suis adhérent d'aucun parti politique.
Mais à ma
je
question, est-ce que vous allez vous désolidariser de la majorité?
Pas du tout, parce que je pense que c'est pas à l'extérieur que ce que j'ai envie de faire avancer, j'arriverai à le faire avancer. J'ai besoin d'être dedans pour... Vous savez, la politique...
Ouais, mais on vous a pas écouté. Sur le 49.3, vous l'avez dit vous-même.
Il y a peut-être des choses...
Votre amendement n'a pas été retenu.
Mais j'en ai eu d'autres qui ont été retenus. La TVA 5.5 pour la seconde vie des logements sociaux, etc. Il y a des petites choses qui avancent.
Marginal.
La difficulté aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'on a une approche nationale du logement purement financière. On a un État qui est endetté. Donc la politique de Bercy aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut réduire les dépenses de l'État. Et malheureusement, dans le viseur, ils ont le logement. Moi, mon rôle de parlementaire, d'ancien maire, c'est de dire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est de dire qu'aujourd'hui, on a 4 millions de mal logés. On a 300 000 personnes qui sont à la rue. Et que tant que je fais de la politique, et si je fais la politique, c'est bien pour faire en sorte que les Françaises et Français vivent bien. Et en particulier, ceux qui sont en difficulté aujourd'hui. Donc je continuerai à porter ce message-là pour faire en sorte, effectivement, qu'au plus haut niveau... On comprenne que le logement, ce ne sont pas que des chiffres, ce n'est pas des cases, ce n'est pas dire il y a 37,8 millions de logements, donc c'est bon, il y a assez de logements pour tout le monde. Et puis monsieur Henri Buzicazot, il aime bien, le fin fond de la Creuse, on va l'envoyer là-bas parce que finalement il y a un logement qui correspond à la composition de sa famille, monsieur, etc. Non, ça c'est un régime autoritaire qui fait ça. Aujourd'hui, les Français, ils ont des envies de logement. Ils ont envie d'aller sur le littoral, ils ont envie de certains à la montagne, d'autres. Et on ne peut pas leur imposer d'aller quelque part.
Lionel Causse,
c'est pour ça que je disais qu'il faut
une politique. Quel est le responsable de cette crise qui a provoqué et qui a précipité, même si structurellement Henri a raison, si ce n'est pas le gouvernement d'Emmanuel Macron?
Non, il n'y a pas un responsable déjà, il y a beaucoup de responsables et ça ne date pas d'Emmanuel Macron. Avant l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, j'étais maire. Saint-Martin-Seigneur dans les Landes, je peux vous dire que la crise du logement, déjà, je la vivais. Pourquoi j'ai doublé le parc de logements sociaux sur ma commune? C'est parce que nous n'avions rien pour pouvoir héberger les gens qui vivaient sur ce territoire. Et les tensions, elles étaient déjà là. Et les gens, dans ma commune,
comprenez,
qui vivaient dans leur voiture, tout ça. Donc, je veux dire, c'est pas nouveau.
Vous comprenez les élus locaux aujourd'hui?
Mais je comprends les élus locaux, mais je les comprends pas quand ils signent pas de permis. Je l'ai dit. Un élu local qui dit qu'il préfère travailler pour sa réélection que pour apporter des réponses au logement à sa population, c'est une faute. Il va falloir qu'on le dise aussi, que chacun prenne sa responsabilité. L'État, sa part de responsabilité, j'ai pas de problème là-dessus, je l'assume. Mais les élus locaux aussi, tout le monde a une part de responsabilité. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas un responsable, il y a plein de responsables et il y a un contexte international, voire national, qu'on subit, qui ne dépend pas d'Emmanuel Macron. L'augmentation des taux, la guerre en Ukraine, c'est pas le président de la République. Ouais. Donc ça vient accélérer.
Oui. Mais le fait d'économiser sur le logement, qui dépense 42 milliards d'aides, entre 39 et 42 milliards pour être très juste, et qui génère en réalité, puis ça a été démontré par toutes les études,
90 milliards de recettes.
Absolument.
Tout à fait.
Là, on ne peut pas dire que l'arbitrage, si vous voulez, sur la réduction du budget, se fasse au détriment du logement.
C'est là où je pense, je l'ai dit, je n'ai pas de problème, que les arbitrages aujourd'hui, avec une vision purement financière de dépenses, c'est une faute. Parce que déjà, ça ne répond pas à ce besoin de politique pour répondre. Et la politique, c'est ça, c'est répondre aux attentes de nos concitoyens. Et que derrière, il y a un solde. Le solde aujourd'hui, il est positif. Et si demain, il est négatif, ça va nous coûter encore plus cher. J'ai fait un tour en Occitanie au mois de juillet. Je suis allé voir des sociétés de gestion, je suis allé voir des entreprises de peinture, je suis allé voir des établissements bancaires qui travaillent sur justement la constitution des prix immobiliers. Je suis allé voir des notaires, j'ai vu des promoteurs. Tous sont en train de licencier. Déjà en juillet, ils m'alertaient tous là-dessus.
Entre 20 et 30%.
Donc on va, c'est pour ça que quand je vous disais tout à l'heure, je crois que moi, je ne suis pas là pour dire que ça va bien ou que ça va mal. Je suis là pour dire ce que je vois sur le terrain. Et donc déjà, depuis pas mal de mois, je vois qu'on va licencier à tous les niveaux. Donc, parce que quand vous disiez parler de la crise, il n'y a pas que les promoteurs. Il y a tous ces métiers-là.
Exactement.
Et bien sûr, derrière, c'est des recettes en moins, mais c'est des recettes taxes d'aménagement aussi, si vous voulez, en moins pour les investissements des communes, en plus des DMTO. Puisque si les maires ne signent pas de permis, il n'y a plus de taxes d'aménagement.
C'est très juste.
Taxes d'aménagement, c'est une des plus fortes recettes pour le budget d'investissement des communes. Parce que vous avez deux budgets, fonctionnement, investissement. L'investissement, c'est quoi? C'est l'FCTVA sur les dépenses que vous avez faites avant, taxes d'aménagement ou l'emprunt. Bon, s'il n'y a plus de taxes d'aménagement, je ne sais pas comment les communes vont investir demain. Donc tout ça, il va falloir à un moment ou à un autre qu'on le compense. Mais ce n'est pas l'État qui ne signe pas les permis de construire. Mmh. Ce n'est pas l'État qui empêche de surélever les bâtiments.
Est-ce que vous pensez que ce sont les maires qui sont vraiment responsables de ça ?
On a besoin de tout le monde. Moi, je ne cherche pas des responsables. Je dis, on est dans une situation... Aujourd'hui, on a besoin de travailler ensemble. On a besoin de relancer les bailleurs sociaux, que l'État donne un cap, donne une vision et définisse une politique. Et moi, je travaille ce matin avec le CNH. On a donné des objectifs de construction, parce que je me bats là-dessus pour qu'on dise... Voilà combien il nous faut de logements pour arriver à régler le problème du logement dans notre pays pour les années à venir. Et on fait une loi de programmation pluriannuelle éventuellement pour essayer d'atteindre chaque année ces objectifs-là. Après, on peut dévier un peu plus un point, peu importe, parce qu'on sait très bien qu'il y a des programmes qui sortent plus ou moins vite. Mais il faut qu'on ait un cap et que l'État donne ce cap. Après, on le décline. Après, on demande aux élus d'y arriver.
Des solutions,
souhaitons
on va finir
que Matignon vous entende.
On va finir avec ça. A été évoqué tout à l'heure lors de la table ronde la nécessité d'une politique justement durable sur le long terme du logement. On a même évoqué l'idéal, ce serait d'avoir un ministre qui a un mandat de plusieurs années. Est-ce que ce serait la solution ?
Oui, mais le long terme, c'est pas non plus du long terme. La loi SRU, les années 2000, 2023, il nous manque encore 600 000 logements sociaux. Mmh. Voilà. Ouais, donc le long terme, ça va beaucoup plus vite. Voilà.
Absolument.
Des fois, on fait des lois de programmation en donnant des délais, mais il ne faut pas non plus que les délais soient dépassés de façon démesurée en permanence. Ouais. Donc les long termes, oui, mais avec des bilans annuels. Et d'où ce que j'ai fait la proposition tout à l'heure aussi, c'est qu'on a un institut ou un data center qui nous permet d'évaluer année par année ce que l'on veut faire et de peut-être pouvoir simuler les outils qui nous permettent de rectifier éventuellement les erreurs que l'on peut apporter ou de pouvoir atteindre nos objectifs.
Eh bien, merci beaucoup, monsieur le député. Merci, Henri Buzy-Cazot, pour cette interview. Merci, Sylvain Lévy-Valency. On se retrouve tout de suite sur nos antennes.
Merci.
Le grand débat de l'Anacofi, jeudi 14 décembre 2023, au Cercle de l'Union Interalliée sur Radio Imo et Radio Territoria.